Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir à toutes et à tous. Mondial Sport ce soir, c'est avant tout du football. En Afrique d'abord, avec les matchs allés du dernier tour de qualification pour le CHAN 2020. Et en Europe, où Pierre Chaperon nous dira quel visage a présenté le Real Madrid sur la pelouse de Séville après sa déculottée face au PSG. Alors qu'Hugo Moissonnier a rencontré le buteur nigérian de Lille, Victor Osimhen, véritable révélation du début de saison en France. Le football, sujet sensible et éminemment politique en Iran, où une jeune femme supportrice de foot s'est immolée par le feu il y a une dizaine de jours. Nous entendrons l'éclairage du journaliste de la rédaction en persan de RFI, Nasser Etemadi. Une émission réalisée par Fabrice Violet. Et pour démarrer ce Mondial Sport, bonsoir Antoine Grenier.
Bonsoir Éric Chorin.
Un coup d'œil avec vous au terrain africain. Ils seront 16 sur la ligne d'arrivée de qualification du CHAN 2020. Le Cameroun est déjà qualifié en tant que pays organisateur, enfin en théorie. Mais les autres disputent ce week-end le dernier tour aller des éliminatoires. Bonne opération pour le double vainqueur de la compétition.
La RDC, qui a remporté les éditions 2009 et 2016, s'est imposée cet après-midi en Centrafrique, 2-0. Succès acquis grâce au but de Beya et de l'inévitable Jackson Muleka, la pépite du TP Mazembe. Les Centrafricains réduits à 10 en fin de rencontre après l'expulsion de leur gardien. Une fin de match à 1 de moins, c'est aussi ce qu'a connu la Côte d'Ivoire au Niger. À 20 minutes de la fin, Salif Bagat, l'attaquant de l'ASEC Abidjan, a été exclu. À ce moment-là, les éléphants locaux étaient menés 2-0 sur des buts d'Abdoulaye Alidou Garba à la 40e et Abdoulaziz Ibrahim sur pénalty à la 64e. 2-0, ce sera d'ailleurs le score final. Maxime Gouaméné, le sélectionneur ivoirien, considère que son équipe n'a pas bien abordé cette rencontre.
L'équipe du Niger nous a pas surpris, on la savait très athlétique, on a su résister à ces ballons longs, on a su bien défendre pour récupérer les ballons. Malheureusement, on les a mal utilisés avant de prendre ce but-là qu'on aurait pu éviter avant la mi-temps. Ça nous a rendu après la tâche un peu plus compliquée pour revenir en deuxième mi-temps, parce que quand tu es mené que l'adversaire met derrière à bien défendre, ça devient plus compliqué. Voilà, ça a été un bon match dans l'ensemble, je dois reconnaître, et l'équipe adverse nous a mis en difficulté, comme on s'y attendait, mais bon, on avait nous aussi la capacité de réaliser de bonnes choses. Malheureusement, on s'est mis en difficulté aussi avec ce carton rouge. Je pense, à mon sens, on a été un peu trop prudent. À un moment donné, on aurait pu, depuis le premier quart d'heure, mettre le ballon au sol pour les mettre en difficulté, ce qu'on n'a pas bien réussi. Donc ça les a galvanisés à continuer à nous arroser dans le dos. On a cette capacité de mettre le ballon au sol, on l'a pas fait trop vite, hein, et puis au moment où on voulait s'y mettre, malheureusement on prend ce carton rouge.
Côté nigérien, l'expérimenté Haruna Doula est lui déjà tourné vers le match retour.
Je suis satisfait parce qu'on a remporté notre match à Nobissé. Maintenant ce n'est pas fini, on va le retrouver dans un mois à Abidjan, dans un autre contexte. Maintenant il faut se préparer. On a un acquis, on va le défendre, on va s'appuyer dessus pour l'améliorer. Je pense qu'on a des possibilités même là-bas pour surprendre. Certainement que ça ne sera pas facile.
Vous ne craignez pas le piège ivoirien à Abidjan?
Je pense qu'il n'y aura pas des soldats sur le terrain, c'est des joueurs qui seront en face. Et il faut se préparer en conséquence.
Haruna Doula, sélectionneur du Niger local, au micro d'Ousmane Keïta.
Autre bonne opération du jour, Antoine, celle du Togo et du Burkina Faso.
Les étalons locaux en déplacement à Kumasi au Ghana et qui ont dû attendre la 95e minute pour marquer le seul but de la rencontre. Victoire précieuse dans la perspective du match retour. Grosse satisfaction d'ailleurs du sélectionneur adjoint du Burkina, Issaka Ouédraogo.
Ça n'a pas été tout facile. On s'y attendait en venant. Jouer le Ghana, ça n'a jamais été facile. Mais les garçons ont montré quand même qu'ils avaient du culot. Ils ont accepté souffrir. Ils ont accepté souffrir. Et je pense que c'est dans cette souffrance-là qu'on est arrivé à nous en sortir.
Mais comment vous avez trouvé l'équipe ghanéenne?
Très bonne. Alors là, très joueuse. Bon, mais dans tous les cas, nous, on n'avait pas besoin du ballon. Hein. On leur laisse le ballon. On avait mis quelque chose en place. Et je pense que les enfants ont bien respecté cela. Sinon, une très bonne, très, très bonne équipe du Ghana. Il va falloir repartir encore, travailler dur pour encore les attendre et encore multiplier doublement ou triplement, voire quadripler les efforts pour pouvoir avoir le chemin du Cameroun.
Le sélectionneur adjoint du Burkina, Issaka Ouédraogo, micro de TTHJ. Le Togo, lui, peut être optimiste pour la suite. Les éperviers locaux, large vainqueur du Nigeria, 4-1, et donc en lice pour participer au premier CHAN de leur histoire.
Ce sera plus disputé en revanche, Antoine, dans les autres confrontations le mois prochain pour les matchs retour, notamment pour le Congo-Brazzaville.
Les Congolais qui aimeraient bien revenir au CHAN après leur quart de finale de 2018. Les Diables Rouges locaux sont allés chercher un bon nul de partout cet après-midi en Guinée équatoriale face au doublé de Pedro Obam Bengono Assou, Mignon Jaurès et Toumban à la 28e et Karov Bakwa à la 83e ont permis aux Congolais d'espérer. En tout cas, leur sélectionneur, Barthélémy Gatsono, a trouvé des raisons de croire à la qualification.
On se disait, il suffisait de marquer un pour que le deuxième il vienne seul. Parce que quand on a marqué un, il y avait la peur dans la tête des joueurs guinéens. Ils avaient peur d'encaisser un deuxième. Et puis, ils cherchaient en plus à marquer. Ils ont libéré des espaces. Manque de concentration, c'est là où nous avons pu marquer ce petit but-là. C'est des petites erreurs d'inattention, vous voyez. Le premier, c'est notre joueur qui frappe, on ne monte pas sur lui. Et le deuxième, on abandonne, donc un problème de marquage et tout. C'est pas encore gagné, je vous le dis. Ce que nous avons fait ici, la Guinée peut aussi nous le faire là-bas.
Et poser des problèmes aux Congolais, ce sera justement l'objectif d'Antonio Pancho Milam. Mais le sélectionneur équato-guinéen va devoir résoudre les problèmes rencontrés par ses joueurs cet après-midi.
Quand vous regardez la lecture du match, c'est des erreurs défensives. On encaisse un but d'une deuxième ballon. Et puis, à la fin du match, on encaisse un but sur le corner. Une balle qui fait toute la trajectoire du but jusqu'au deuxième poteau. Il n'y a personne sur place. Donc, c'est des petites erreurs défensives et c'est des petites erreurs comme ça qui font balancer le résultat sur un match. J'encourage les gens. Vous avez vu le match. J'en suis fier de mes joueurs. On n'est pas encore éliminé. Il y a un match de 90 minutes qui va se jouer à Brazzaville. Et j'en suis sûr que l'éliminatoire est encore 50-50.
Antonio Pancho Milam, le sélectionneur équato-guinéen, au micro de Fabien Essiane. Les autres résultats de ce dimanche, le Soudan s'impose en Tanzanie 1-0. Madagascar prend une petite option en dominant la Namibie 1-0. Même score, mais pour des victoires à l'extérieur du Rwanda en Éthiopie et de la Zambie face à l'Eswatini. Quant au Zimbabwe, il s'est imposé 3-1 sur le Lesotho. Match retour de ce dernier tour qualificatif pour le CHAN 2020. Ce sera entre les 18 et 20 octobre prochains.
Merci Antoine, vous revenez en fin d'émission, on ira à Dakar avec vous. On ouvre maintenant à la page consacrée au football européen en commençant par le championnat de France. Les trois derniers matchs de la sixième journée de Ligue 1 avaient lieu aujourd'hui avec sur la pelouse les cinq clubs de l'Hexagone engagés en Coupe d'Europe cette saison. Le dernier de ces trois matchs s'est terminé un peu avant le début de l'émission. Le choc Lyon-Paris-Saint-Germain s'est refermé sur la victoire des Parisiens 1-0. Un but de Neymar qui libère de nouveau le PSG à la 87e minute. Un peu plus tôt, Saint-Etienne a fait exploser... a explosé à Angers, 4-1 avec un triplé de Casemir Ninga, l'international tchadien qui n'était pourtant pas titulaire au coup d'envoi. Entré en jeu à la 69e minute, Ninga a inscrit ses trois premiers buts pour Angers en l'espace de 10 minutes entre la 78e et la 88e. Paris est leader du championnat avec 15 points, 3 longueurs devant Angers et Nice. Et puis en début d'après-midi, Rennes et Lille ont fait match nul 1-1. Égalisation rennaise d'Adrien Hunou après l'ouverture du score de Jonathan Ikoné pour le LOSC. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais Victor Osimhen n'a pas marqué aujourd'hui. Le jeune Nigérian de 20 ans est pourtant la grande révélation de ce début de saison en France, avec 5 buts au compteur depuis son arrivée en provenance de Charleroi cet été. Il en arriverait presque à faire oublier l'ivoirien Nicolas Pépé dans le nord de la France, alors qu'en sélection, c'est la place du retraité Odion Ighalo qui est à prendre. Mais pour confirmer tous les espoirs placés en lui, le Lillois va devoir se montrer décisif dans les très grands rendez-vous. Pour sa première en Ligue des Champions mardi dernier, Osimhen a notamment vu sa tête à bout portant repoussée par André Onana, le portier de l'Ajax. Le LOSC s'est incliné 3-0 à Amsterdam. L'occasion pour Hugo Moissonnier de tester son anglais dans un échange à bâton rompu avec le Nigérian. C'était juste après le match.
Jouer la Ligue des Champions, c'est le rêve de n'importe quel footballeur. Dans cette compétition, tu veux tout donner et montrer ton meilleur visage. Mais l'Ajax est une équipe très bien organisée et il ne fallait pas commettre d'erreurs. Nous avons eu des occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées. C'est le football. Nous devons toujours chercher à nous améliorer.
Vous pensez pouvoir faire mieux contre Chelsea et contre Valence ? C'est un groupe relevé quand même.
Bien sûr, nous allons bien analyser nos erreurs. Contre Chelsea, nous allons tout donner pour gagner. Nous avons appris beaucoup de choses en affrontant l'Ajax. Nous allons donc tenter de corriger le tir.
Revenons à votre début de saison. Les Français vous découvrent, mais vous vous êtes révélé lors du mondial des moins de 17 ans en 2015. Ensuite, vous avez connu des galères à Wolfsburg avant de vous relancer en Belgique. Quel regard portez-vous sur votre parcours ?
Après cette Coupe du Monde, je pensais que tout irait bien, mais il y a eu Wolfsburg. J'ai beaucoup appris tout de même, malgré mon faible temps de jeu. Cette épreuve m'a aidé pour la suite. Il a fallu que je recule d'un cran pour relancer ma carrière en Belgique. Ça a très bien fonctionné. Maintenant, je dois continuer à travailler pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, c'est comme dans un rêve. Je joue dans l'un des meilleurs championnats au monde.
Et il faut faire oublier Nicolas Pépé, c'est une pression difficile à supporter ?
Je ne me considère pas comme le remplaçant de Nicolas Pépé. Je suis Victor Osimhen. Je veux juste bien travailler pour Lille. Ce que Pépé a réalisé la saison passée est exceptionnel. Mais nous sommes deux joueurs différents et je veux juste aider l'équipe.
Et maintenant, il faut s'imposer en sélection. Vous n'avez pas beaucoup joué durant la CAN. Il faut dire qu'Igalo, le meilleur buteur du tournoi, était là. Désormais, c'est votre objectif de devenir l'avant-centre numéro 1 des Super Eagles ?
Bien sûr, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le coach. Igalo a fait de grandes choses pour la sélection et pour le pays et je veux reprendre le flambeau. C'est au sélectionneur de décider qui joue et qui va sur le banc, mais bien sûr que je veux continuer à aider l'équipe.
Et Victor Osimhen en a eu l'occasion le 10 septembre dernier. Il a marqué son premier but pour les Super Eagles lors du match nul 2-2 en amical face à l'Ukraine. Bon, ok, c'était un penalty, mais c'est un début. Cap sur l'Espagne, où la cinquième journée de Liga s'est refermée ce soir sur le match de gala entre le Séville FC et le Real Madrid. Pour en parler, notre correspondant madrilène, Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Eric.
Alors 4 jours après sa lourde défaite à Paris, 3-0 en Ligue des Champions, le Real devait se reprendre et s'est bien repris en s'imposant 1-0 en Andalousie.
Ouais, c'était le jour et la nuit par rapport à Paris mercredi. Chapeau à l'équipe, c'est ce que vient de dire Sergio Ramos à la télévision pour le défenseur central du Real qui retient surtout ce soir la force collective de son équipe. C'est Benzema qui a marqué sur un centre de Gareth Bale un but de la tête. C'est son geste fétiche puisque c'est le meilleur buteur de la tête en Europe en 2019. Bonne soirée pour le Real, aucun tir cadré pour Séville. On a senti les joueurs plus concernés côté madrilène, relevant le défi physique proposé par Séville. Marque à titre ce soir sur son site web, le Real devient sérieux. Séville, de son côté, a résumé en un match tous ses soucis dans la finition en Liga. Seulement 5 buts de marqués cette saison, encore pas mal de boulot pour les hommes de Lopetegui.
Un succès qui va donner, en tout cas Pierre, un peu de répit à Zinedine Zidane.
Oui, dans un pays où la presse, les supporters laissent tranquille l'entraîneur seulement en cas de victoire, oui, c'est un répit, c'est clair. Zidane hier disait qu'il n'était pas inquiet, il l'a montré en sortant le même 11 à une exception près ce soir, le retour de Ramos. Mais Zidane a encore un test mercredi contre Osasuna, mais surtout samedi prochain contre l'Atlético de Madrid. Le Français était quand même très content après la rencontre, il l'a dit en conférence de presse d'après-match, c'est une victoire de groupe.
Et puis l'homme dans le match ce soir pour vous, c'est Raimes Rodriguez.
Oui, on aurait pu choisir Hazard ou Benzema, mais on va prendre le Colombien, totalement tricard. Il y a 2 saisons ici même à Madrid, pas assez impliqué à l'entraînement. Zidane avait demandé son départ, 2 saisons moyennes au Bayern en prêt. Il est revenu, Zidane n'en voulait pas forcément. Annoncé à Naples ou même à l'Atlético, les offres ne satisfaisaient pas le Real. Face à l'absence de recrues au milieu, côté Real, Ramos est resté. Et le bonhomme, il a changé radicalement. Il s'est remis la tête à l'endroit. Comme on dit, résultat, on est très satisfait de lui dans l'entourage du Real. Bilan, 3 titularisations sur les 3 dernières rencontres dans un poste de numéro 10. Et ce soir, un match très propre, offensivement et défensivement. Il se bat sur tous les ballons dans un match difficile. Il a offert des moments de pure magie. C'est ce que note ce soir le quotidien madrilène AS.
Et à l'arrivée, Pierre, le Real fait une bonne opération puisque l'Atlético et le Barça ont calé hier.
Oui, le club qui a le plus inquiété, c'est le Barça, battu 2-0 sur la pelouse du promu Grenade. Pire début de championnat, du moins les pires 5 premières journées pour le Barça. Depuis la saison 94-95, cette année-là, le Barça avait terminé 4e. Un petit mot, Eric, de Grenade, une équipe qui défrayait la chronique il y a 2 saisons, qui empilait les joueurs sans réel objectif sportif, avec un entraîneur, Tony Adams, un petit peu perdu. Relégué l'an passé, ils sont vite revenus avec pas mal de revanchards. Un exemple, Roberto Soldado, 34 ans, grand espoir du football espagnol. Et un entraîneur à l'esprit très clair, Diego Martinez, 38 ans. Grenade est 3e ce soir. Côté Atlético, très rapidement, match soporifique, 0-0 contre le Celta. Pas beaucoup d'idées, sûrement la fatigue du match consenti en Ligue des Champions contre la Juve. Le Real est ce soir le co-leader de la Liga avec l'Athletic Bilbao, avec 11 points. L'Atlético de Madrid pointe à 1 point de son voisin. Le Barça à 4 points de son éternel Rival, Eric.
Pierre Chaperon à Madrid. Merci Pierre. On fait juste un détour par l'Angleterre où Liverpool poursuit son cavalier seul en tête de la Première Ligue. 6 matchs, 6 victoires. 2-1 sur la pelouse de Chelsea. N'Golo Kanté a beau avoir marqué un superbe but pour les Blues. Les Reds avaient fait le travail en première période. Et puis, notez aussi les buts de Pierre-Emerick Aubameyang et de Nicolas Pépé pour la victoire d'Arsenal face à Aston Villa. 3-2. Venons-en maintenant à ce tragique événement survenu en Iran le 9 septembre dernier. Et ce jour-là, une jeune femme d'une trentaine d'années est décédée après s'être immolée par le feu devant l'entrée d'un tribunal à Téhéran. Elle s'appelait Sahar Khodoyari, plus connue sous le surnom de la fille bleue en référence aux couleurs du club de football qu'elle supportait. Nasser Etamadi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein de la rédaction en persan de RFI, d'origine iranienne vous-même. Qui était Sahar Khodoyari? Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi ce geste irrémédiable a-t-il un lien avec le sport et plus précisément le football?
Bon, Sahar Khodoyari, d'abord, elle est originaire de Qom. Qom, c'est une ville religieuse, la ville la plus religieuse, c'est la ville du clergé au pouvoir en Iran. Donc, elle est parmi ces millions d'Iraniennes qui n'a pas le droit d'accès au stade, qui est privé de participer à certaines activités sportives d'après les lois islamiques en vigueur depuis 4 décennies, qui sont tout simplement les lois ségrégationnistes. Or, cette jeune fille s'est immolée devant le tribunal islamique avant tout contre la ségrégation sexuelle dans ce pays, en signe de contestation contre la condamnation dont elle a été objet de la part de ce même tribunal pour s'être tout simplement introduite ou tenter de s'introduire au stade de Téhéran.
Elle avait tenté d'assister à un match de son équipe favorite.
Exactement, Esther Lal, qui est désignée justement par la couleur bleue.
Et pour cela, elle s'était déguisée en homme, c'est cela?
Et là où, dans le passé, même la chance ou la possibilité d'y insister en se déguisant en persan. On a même fait un film il y a quelques années à ce sujet par le metteur en scène connu iranien Jafar Panahi, qui est aujourd'hui, même depuis 10 ans, interdit de tourner des films, mais cependant ces films couronnés par succès sur la scène internationale. Voilà.
Parce que quelle est la réalité de la pratique sportive en Iran? On sait que c'est le dernier pays au monde où les femmes n'ont pas le droit d'assister à un match de football dans les stades, mais quelle est la réalité de la pratique sportive pour les femmes en Iran?
La pratique sportive en Iran, c'est comme le reste quand il s'agit en fait des femmes. Sahar Khodoyari, son acte, peut-être, c'est un signe de désespoir total, mais je pense qu'en fait, il faut bien le situer dans le contexte actuel de l'Iran aujourd'hui, où des femmes iraniennes mènent un combat quotidien contre la loi islamique, contre la ségrégation islamique, justement à travers leur lutte contre le voile obligatoire, et en même temps, le droit d'avoir accès au stade pour assister aux matchs de foot, pour défendre leur équipe favori. Donc, c'est aussi un acte politique important. Les réseaux sociaux en font largement écho. Ce n'est pas quelque chose anodin.
Elle est donc un symbole très fort pour les femmes en Iran, un symbole politique, mais qui a fait réagir quand même le monde entier, jusqu'au monde du football. Il était temps peut-être, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réagi ainsi. Notre position est claire et ferme, les femmes doivent être autorisées à entrer dans les stades de foot en Iran. Il a évoqué des demandes répétées de l'instance dirigeante du foot international pour, dit-il, remédier à cette situation inacceptable. Une délégation de la FIFA, Nasser Etemadi, est d'ailleurs sur place à Téhéran pour préparer la venue de supportrice lors du match de qualification pour le Mondial 2022 face au Cambodge, c'est le 10 octobre prochain. Ce serait une première. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce qu'il y aura des supportrices ce jour-là? Est-ce que les choses sont en train de changer, même si ça arrive très tard?
Je donne une précision. Je viens de lire la dépêche qu'a publiée en persan Iran à ce sujet, l'agence officielle iranienne. Elle fait état de la rencontre entre la délégation de la FIFA et le ministre du sport iranien. Cette délégation s'est rendue même au stade de Téhéran, mais n'empêche que les autorités iraniennes présentent les choses autrement. Ils disent que la délégation a accepté les lois en vigueur en Iran. Or, en l'occurrence les mêmes lois ségrégationnistes. Il est possible que le régime iranien et la Fédération nationale iranienne, qui est en main des gardiens de la révolution, c'est une fédération assez riche, accepte de laisser les Iraniennes d'accéder au stade pour tout simplement échapper aux sanctions disciplinaires qui ne viennent hélas toujours pas de la part de la FIFA. Il est fort possible que les Iraniens laissent les femmes dans un coin séparé, encore en vertu de leur vision ségrégationniste de la chose, au stade iranien, tout simplement pour calmer le jeu. Mais voilà, ça sera un bon signe qui veut dire que les Iraniens, les autorités iraniennes agissent sous la pression.
Merci Nasser Etemadi, merci pour votre éclairage et merci pour la passion avec laquelle vous nous en avez parlé.
Je vous en prie, merci à vous.
La Coupe du Monde de rugby, elle, se poursuit au Japon. Trois matchs avaient lieu aujourd'hui. Nette victoire de l'Irlande, 27-3 face à l'Écosse. Encore plus nette pour l'Italie contre la Namibie, 47-22. Enfin, l'Angleterre a largement dominé les Tonga, 35-3 dans le groupe de la France. Mais le choc de ce premier tour a eu lieu hier entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les Blacks ont dominé les Springboks, 23-13, malgré les efforts de celui qui pourrait bien enthousiasmer les amateurs de ballon ovale durant la compétition. L'ailier sud-africain du Stade Toulouse, Cheslin Kolbe.
L'action n'a pas été jusqu'au bout, mais elle a marqué les esprits de ce choc de mastodonte entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. On joue la 47e minute au stade international de Yokohama et Cheslin Kolbe démarre une envolée dont il a le secret. Presque 50 mètres, quelques crochets de funambule au sein de la défense des All Blacks avant d'être finalement rattrapé par le numéro 10 Richie Mounga à quelques enjambées de la ligne. Miraculeux pour les Néo-Zélandais et leur sélectionneur Steve Hansen.
C'était un tournant du match. J'ai trouvé notre défense très efficace, notamment avec le geste de Richie. Ce qu'il a fait face à Kolbe nous a sauvé la mise.
La défense néo-zélandaise a tenu bon, mais outre ce coup d'éclat infructueux, Kolbe a éclaboussé le match de tout son talent. Les statistiques le prouvent, la mobilette des Springboks est le joueur qui a parcouru le plus de distance dans cette rencontre. 120 mètres, soit un tiers de son équipe. Malgré un gabarit léger, 1m70 et 74 kg, l'ailier de poche est très souvent insaisissable.
Ce que j'ai appris, c'est que les 10-15 premiers mètres sont très importants. Ce dont tu as besoin dans les petits espaces, c'est d'une capacité d'accélération. Si tu y parviens suffisamment, tu prends un avantage presque décisif par rapport à tes adversaires. Donc c'est là-dessus que je travaille le plus.
Des appuis dévastateurs qui lui permettent, de son propre aveu, de courir le 100 mètres en 10 secondes et 70 centièmes, vertigineux et surtout très utile pour passer sous les bras de l'un ou entre les jambes d'un autre, partout en fait où s'ouvre le moindre petit espace. Depuis 2 ans, son explosivité fait les beaux jours du Stade toulousain où il évolue avec le demi de mêlée Antoine Dupont. Celui qui est aussi au Japon avec le 15 de France est toujours aussi admiratif des prouesses de son partenaire.
C'est un joueur assez incroyable, assez exceptionnel, ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Il nous surprend toujours autant à l'entraînement qu'en match. On se dit qu'il ne va pas le faire et s'il le fait, donc c'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça.
Et pourtant, Kolbe, champion de France en juin dernier, n'a failli jamais jouer avec les Springboks. Ancien joueur à 7, il ne correspondait pas aux standards du rugby sud-africain, plus habitué au physique de Golgoth. Mais quelques mois après son arrivée, le sélectionneur Rassie Erasmus, à la philosophie plus audacieuse que ses prédécesseurs, a fini par le convoquer en équipe nationale. Après 11 sélections, il a déjà inscrit 5 essais, mais il n'oublie pas l'apport de ses coéquipiers.
C'est toujours bon de marquer des essais, mais il faut aussi souligner qu'il y a des joueurs autour de moi qui me permettent de franchir cette fameuse ligne blanche.
À bientôt 26 ans, Cheslin Kolbe prouve en tout cas que malgré son physique, il pourrait bien être l'une des grandes stars de cette Coupe du Monde. Après la défaite face aux All Blacks, l'ailier pourra se rattraper face à l'Italie, le Canada et la Namibie. Le prochain match des box pour un duel 100% africain. Cédric De Oliveira, Tokyo, RFI.
Afrique du Sud, Namibie, c'est samedi prochain. Un seul match au programme demain, Pays de Galles, Géorgie. Et puis suite au partenariat signé cette semaine entre Paris 2024 et Dakar 2022 pour organiser au mieux dans 3 ans les 4e Jeux Olympiques de la jeunesse, nous en avons parlé hier. Antoine, c'est l'occasion de faire un point sur les préparatifs.
Oui, près d'un an après la désignation de la ville sénégalaise, les travaux vont déjà bon train. C'est ce qu'a pu constater le directeur associé des JOJ au sein du Comité international olympique. Antoine Guetschi occupe ce poste depuis la création de cette compétition qui réunit les jeunes âgés de 15 à 18 ans et il pose un regard positif sur les avancées de Dakar 2022, les premiers Jeux olympiques de l'histoire jamais organisés sur le continent africain. Il s'est même dit agréablement surpris hein, au micro d'Éric Mamrut. C'était cette semaine à Dakar. Antoine Guetschi.
L'ensemble des acteurs sont alignés, que ce soit le gouvernement national, avec un soutien très fort de la part du président Sall vis-à-vis du projet. Vous savez qu'il était présent lors de la sélection du Sénégal pour ces Jeux de la Jeunesse 2022. Très bonne relation aussi avec les différentes municipalités qui sont impliquées. On sent aussi qu'il y a une volonté à la fois du secteur privé et puis des différents acteurs du développement à l'international d'utiliser ces Jeux Olympiques de la jeunesse comme catalyseur de transformation, de montrer qu'un événement sportif peut jouer un rôle pour faire évoluer une société bien au-delà uniquement des dimensions du sport. Et surtout avec les Jeux de la jeunesse, en donnant une chance à la jeunesse sénégalaise de montrer ce qu'elle est capable de faire, à l'État sénégalais de montrer qu'elle lui fait confiance. Donc on sent que toutes ces opportunités ont parfaitement été comprises par tous les acteurs. Et puis le fait qu'un événement sportif a une date de livraison incompressible, et les Jeux auront lieu en fin 2022, on ne va pas changer cette date. Ça oblige un peu tout le monde à s'organiser et puis ça permet à certains projets de se réaliser beaucoup plus vite que si les Jeux n'existaient pas. Quoi.
La désignation, donc, c'était octobre-novembre dernier, 2018. Depuis, comment vous jugez ce qui a été fait ou pas ?
Alors, les quelques constructions ou rénovations de sites qui doivent se faire sont sur les rails, ça avance bien. Il y avait un certain nombre de grosses infrastructures que les Jeux de la Jeunesse vont utiliser qui ont été finalisées, comme le train entre Diamniadio, où il y aura le village olympique de la jeunesse, et puis le centre-ville, où il y a quelques compétitions. Des sites comme la Dakar Arena ou le centre de congrès de Dakar Expo qui ont été finalisés. Donc là, on a été effectivement assez impressionné de la rapidité avec laquelle ça a été livré. Et puis, on a deux sites principaux qui méritent d'être remis en état. Ils sont vraiment au centre-ville de Dakar. La piscine de Dakar avec toute la zone sportive du Tour de l'œuf vers le point E. Et puis le stade Ibamar Diop. Le village olympique de la jeunesse, lui, bénéficiera d'un projet de construction d'un campus universitaire à l'université de Amadou Mbo de Diamniadio. La construction est assez conséquente, hein. Ce sera plus de 5000 lits qui vont être mis à disposition des athlètes. Donc c'est vrai que ça, c'est une construction assez significative. Il y a un suivi assez proche de notre part pour s'assurer qu'on respecte les délais et que toutes les conditions sont réunies pour que l'équipement soit livré dans les temps. Jusqu'à présent, on est assez confiant. Les choses sont en ordre de marche hein, par rapport à ce qui avait été prévu. Donc pas de souci, mais une surveillance constante.
L'Afrique de l'Ouest, un petit peu connue, c'est peut-être un cliché. Le Sénégal, pour son inertie, un petit peu, on fait les choses à la dernière minute. Est-ce que vous avez remarqué ça et est-ce que c'est quelque chose contre lequel vous allez devoir lutter ?
Effectivement, on sent que culturellement, la planification est pas forcément, ou l'anticipation, c'est pas forcément toujours dans la culture sénégalaise, ça c'est ce qu'on dit, ça doit sûrement être en partie vrai. Pour le moment, je crois qu'on traite des bons sujets et on a pour nous jusqu'à peu près fin de l'année prochaine, on a encore un an vraiment pour travailler sur tout ce qui est préparation. En revanche, il faudra que dès début 2021, on travaille tout de suite sur les aspects opérationnels et de livraison, et notamment de formation du personnel, des bénévoles. Et là, effectivement, peut-être par rapport à d'autres comités d'organisation, on va démarrer un peu plus tôt. On démarrera à peu près 6 mois plus tôt que ce que l'on fait d'habitude pour prendre en compte cette spécificité, on va dire.
Antoine Guetschi, le directeur associé des JOJ au sein du Comité international olympique. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar accueilleront 4000 athlètes qui disputeront les 28 disciplines sportives au programme. Rendez-vous fin 2022, Eric.
Rendez-vous pris, Antoine Gornier. Il y en a un autre aussi qu'il faut noter dans votre agenda. C'est mardi à Nantes en volleyball, quart de finale de l'Euro entre la France et l'Italie. La France était déjà qualifiée après avoir battu la Finlande. Et ben, l'Italie a disposé de la Turquie 3-0. Les deux équipes seront donc face à face en finale mardi à Nantes. C'est fini pour Mondial Sport aujourd'hui. C'est Fabrice Violet qui a mis de la couleur dans ce Mondial Sport.